France Musique. Les trésors de France Musique, Françoise Monteil.
Bienvenue à tous au programme de nos archives. Aujourd'hui, la suite de l'entretien que la soprano André Esposito avait accordé à Gaëlle Le Gallic en 1994. Hier, André Esposito évoquait sa formation, ses débuts et son entrée à l'Opéra de Paris en 1959. Et aujourd'hui, André Esposito nous parle du bonheur qu'elle a eu à incarner les grands rôles de son répertoire et comment elle a conduit sa carrière. Une carrière qu'elle a su orienter vers l'enseignement quand elle s'est rendue compte qu'elle n'avait plus l'âge de ses rôles. André Esposito se confiait à Gaëlle Le Gallic sur l'antenne de France Musique le 27 juillet 1994.
Le fait d'être artiste est une aventure merveilleuse, et je le dis souvent à mes élèves. Ça nous permet d'être 1000 femmes à la fois. J'ai eu la chance de pouvoir être Traviata. J'ai été Juliette. J'ai été Mireille. J'ai été, Léila, je ne peux pas vous citer tous les rôles que j'ai chantés. J'ai été imprégnée quand j'ai chanté Madame Bovary d'Emmanuel Bondeville, parce que c'était ma Bovary, elle m'a habitée avec une puissance. J'ai eu la chance aussi de chanter Mélisande. Cette Mélisande aussi, c'est une femme extraordinairement torturée, qui est complexe. Et je ne peux pas dire qu'il y a un rôle que j'ai aimé plus. Peut-être c'est mon côté de romanesque, d'artiste. Et c'est ce plaisir que j'ai eu d'être toutes ces femmes à la fois. Alors je ne peux pas dire j'ai tel rôle que j'ai préféré. Il y avait des rôles dans lesquels certainement j'étais mieux. Il y a des rôles avec lesquels on a peut-être un peu plus d'affinité, mais quelquefois la difficulté de rentrer dans un rôle ne vous le fait-il pas aimer un peu plus? Il m'est arrivé de chanter à l'opéra, et je peux en parler parce que je crois que ce n'était pas un de mes mauvais rôles, de chanter Oscar du bal masqué, le page. Et je me souviens, ce page, j'avais une espèce de un faible pour ce rôle, je ne sais pas pourquoi. Donc je chantais à l'opéra Traviata, Rigoletto, je faisais tout. Il paraît que, d'après M. Bondeville, je suis allée dans le bureau de M. Bondeville, le directeur, un jour j'ai toqué à sa porte, je n'avais pas l'habitude d'aller toquer à la porte du directeur, mais enfin, j'avais envie de chanter ce rôle. Et je me souviens, je lui ai dit, M. Bondeville, je vous en prie, essayez de me programmer dans l'Oscar du bal masqué. Mais il m'a dit, mais ma pauvre, vous êtes faite pour mourir, vous! Vous n'êtes pas faite pour jouer les petits garçons, et c'est vrai, je mesure quand même 1m67. Bon. Je dis quand même, essayons. Hein, qu'est-ce que ça peut faire? Eh bien, je crois que quand on veut interpréter un rôle, quand on s'imprègne, je crois que j'ai dû rapetisser pour faire ce rôle physiquement, à la façon de marcher, à la façon de gambader, à la façon. Je bougeais tout le temps. Si bien que. Après ce rôle-là, ben il me collait à la peau. On voyait pas quelqu'un d'autre pendant que j'étais en activité. Et même, je l'ai chanté à 40 ans et ça marchait toujours. Vous comprenez? Et je pense que c'est dans la tête que ça se passe. Si vous vous dites, j'ai 16 ans, je suis un petit gars, vous rentrez en scène, vous avez 16 ans, vous êtes un petit gars. Et quand on y réfléchit avec la tête froide, on se dit quand même, t'es folle. Eh ben non, ça marche. Mon idée, moi, c'était de durer. parce que j'aimais ça, j'ai vécu pour ça. Bon. Et on sait très bien que quand on prend des rôles qui sont au-dessus de ses moyens, la carrière est plus courte. Et un jour, Athènes m'a demandé de chanter au théâtre Herodaticus, sous l'Acropole, en plein air, dans le théâtre Othello. Est-ce que vous voulez venir chanter Desdémone ? Et je n'avais pas la voix de Desdémone. Je l'aurais fait pas très bien. J'ai pris la partition avant de refuser. J'ai bien regardé. J'ai regardé les passages les plus larges et plus graves. Et je me suis dit, non, ma fille, tu vas te casser la figure. Et j'ai refusé. Et ça reste encore un regret. Mais je crois que je n'aurais pas été suffisamment... avec une voix suffisamment étoffée. Il y aurait des passages où j'aurais été trop frêle.
comme autrefois. N'est-ce plus ma voix? N'est-ce plus Manon? Rappelle-toi, n'est-ce plus Manon? Écoute-moi, n'est-ce plus ma voix? Ne suis-je plus moi? N'est-ce plus Manon?
Oh Dieu, soutenez-moi dans cet instant suprême.
Je t'aime.
Tais-toi, ne parle pas d'amour ici, c'est un blasphème.
Je t'aime.
Tais-toi, ne parle pas d'amour. C'est l'heure de prier.
Oh, je ne te quitte pas.
On m'appelle là-bas.
Oh, je ne te quitte pas. Viens. N'est-ce plus ma main que cette main prête? Tout comme autrefois.
Tout comme autrefois. Je
te chavise pour toi plein de chance.
J'étais toujours par mon et par vous. Ça a duré une trentaine d'années.
André Esposito.
Et je me suis rendu compte un jour que je n'avais plus l'âge de mes rôles. Je me suis rendu compte un jour, en m'écoutant, que je n'avais plus le côté cristallin. Je n'avais plus la qualité du timbre. J'avais ma voix toujours, mais la voix n'avait plus le cristal que j'avais dans ce timbre que j'avais. Hein, je parle de moi comme si j'écoutais une autre personne. Hein. J'avais un timbre assez caractéristique qui faisait d'ailleurs qu'on m'aimait ou qu'on ne m'aimait pas. Hein, j'avais une voix un peu particulière. Et ce qui me plaisait dans ce que je faisais, c'était mes jolies demi-teintes pures, c'était la qualité du son. Et un jour, je me suis entendue, cette qualité m'a laissée sur ma faim. Je n'étais pas satisfaite. Et je me suis dit, il ne faut pas continuer. Je ne veux pas qu'on dise « elle est encore bien ». Comme on dit d'une femme, oh, elle est encore bien, physiquement. Je n'ai pas voulu qu'on dise de moi que je chantais encore bien. Ce encore était de trop. Et à ce moment-là, m'est venue l'idée que peut-être je pourrais faire profiter des jeunes de mon expérience. Et je me suis orientée vers l'enseignement. J'ai commencé à enseigner il y a une dizaine d'années seulement. Hein? Et tout ça s'est fait, ça s'est très bien enchaîné. Si bien que, je ne peux pas dire que... Il peut arriver quelquefois que j'ai envie de chanter. Et puis, je me dis, bof, à quoi bon, j'en ai assez donné, j'ai assez fait. Et quand mes jeunes chantent et qu'ils chantent bien, je suis heureuse. Vous comprenez? Et je trouve que cette reconversion... est une chose logique dans la vie d'une artiste. On ne peut pas toujours chanter et essayer de s'accrocher, parce qu'alors à ce moment-là, si je continuais à chanter, si j'avais chanté encore ces 10 dernières années, j'aurais été pendue chez le pharmacien, chez le docteur, j'aurais fait tout un tas de... C'est une vie d'inquiétude. Vous comprenez, être toujours en forme. Mais à ce moment-là, non, ça ne me plaisait plus. En plus de ça, j'avais envie de poser la valise. Il y en avait assez. Et le jour où je me suis dit, ça y est, je ne pars plus, j'ai ma table de toilette avec mes petits pots de crème, je ne sais pas que j'en mette beaucoup, j'ai mes petites affaires et je laisse tomber la trousse de toilette. Il fallait tout, je défaisais une valise pour en faire une autre. En plus de ça, je suis mariée depuis 30 ans et j'avais envie d'avoir une vie un peu normale à la maison. Donc j'en ai eu assez d'être toujours sur le qui-vive. J'ai eu envie de vivre. Et alors, grâce aux jeunes, je vis au travers eux et je profite un petit peu de l'existence, parce qu'elle est courte, cette existence. C'est la parole, le mot. Donc, quand nous chantons, nous devons être honnêtes et ne pas tricher. Bien sûr, on arrondit la façon de prononcer un O, un U, un OU. Il y a un assombrissement de la voyelle pour que le son reste mélodieux. Il ne faut pas que ça soit criard. Mais il faut surtout que l'articulation soit nette. Moi, j'estime que on doit pouvoir comprendre. Et c'est toujours un compliment que m'ont fait mes fans, mais les gens qui venaient m'entendre, qui me disaient « Oh, Madame Esposito, c'est bien, on comprend quand vous chantez. » Mais c'est la moindre des choses, c'est une chose tellement logique. C'est le reste qui me semble absurde. Pendant ma jeunesse, pendant mes études, j'ai beaucoup écouté Maria Callas. Pas trop pour la technique vocale. Il y avait des choses qui étaient très belles. Elle faisait des vocalises qui étaient des perles. Et j'écoutais beaucoup les enregistrements qu'elle avait fait quand elle était jeune. J'ai moins aimé Callas à la fin de sa vie quand elle faisait des enregistrements qui étaient peut-être au point de vue technique trop artificiels. Parce que c'est une femme qui a usé son organe vocal 3 fois plus, et si ce n'est 10 fois plus qu'une autre, parce qu'elle avait ce tempérament dramatique qui faisait d'elle une tragédienne lyrique hors pair. C'était unique. J'ai eu la chance de la voir à l'Opéra de Paris quand elle avait donné ses dernières Norma. C'était un monstre en scène. Elle arrivait et on ne regardait qu'elle. Et pourtant, vocalement, elle était à la fin. Mais c'était une bonne femme énorme. C'était un monument. En plus, ça, elle était belle. Elle était musicienne jusqu'au bout des ongles. C'est elle qui a amené dans le chant vocalisant la vocalise expressive. Elle ne faisait pas des cocottes, elle ne faisait pas des vocalises pour faire une performance vocale. Chaque fois qu'elle faisait une vocalise, sa vocalise voulait dire et exprimer un sentiment de ce qu'elle faisait. C'était une artiste pour cela que j'admirais beaucoup. Et je me souviens une anecdote que j'ai eue à cette époque-là. J'avais une telle admiration que je me suis dit, il faut que j'aille à son spectacle. Les places s'arrachaient à prix d'or. Moi, je faisais partie de la troupe de l'opéra. J'ai réussi à avoir une place. Je me disais, on sentait qu'elle allait arrêter la carrière. Et je voulais la voir parce que je voulais. Et elle m'avait tellement emballée que je me suis dit, je vais aller dans la coulisse. Après tout, je vais faire comme les autres. Je vais aller demander un autographe. Et je suis allée. On m'a dit, oh, elle n'est plus dans sa loge. Elle est là, sur la scène déjà. Elle s'imprégnait. Avant d'entrer en scène, c'est pas la bonne femme qui arrivait au dernier moment, qui rentrait en scène, qui chantait, qui sortait. Elle allait prendre l'atmosphère de ce qui se passait avant. Et je me souviens, je la cherchais. Et puis il y avait rangé sur les côtés les portants avec les décors. Et dans un coin entre deux décors, dans une espèce d'espace d'un mètre ou deux mètres carrés, elle était là, recroquevillée sur elle-même, attendant d'entrer en scène, morte de trac. Morte de trac. Je me souviens, je suis allée à elle, j'osais pas la déranger parce que je savais que c'était dur ce qu'elle faisait, et je suis allée lui dire toute mon admiration. Et cette femme qui aurait pu se gonfler, prendre de l'importance sur la carrière qu'elle a fait, oh, elle m'a dit, mais je vous ai entendu chanter. Et elle ne m'a parlé que de moi, de ce que j'avais fait, de ce qu'elle avait entendu quelque temps auparavant, et elle m'a fait des compliments. Oh, elle m'a dit, le trac. Je suis sûre qu'à votre âge, vous ne savez pas ce que c'est. Vous verrez quand vous aurez mon expérience. Pour moi, ça a été longtemps un exemple. Quand on est professeur, on a toutes sortes de voix, toutes sortes de types de voix. En général, quand je prends un élève, je le veux au début net et je le façonne en respectant sa personnalité, en respectant ses qualités vocales. Je ne peux pas dire qu'il y a un timbre de voix qui m'attire plus qu'un autre. Il y a les belles voix et il y a les autres. Il y en a qui compensent par une intelligence, une musicalité, une qualité peut-être moins belle que certains autres. Et puis vous en avez d'autres qui ont des voix magnifiques et puis il y a moins d'autres choses derrière. On ne peut pas faire de généralité. Je ne peux pas dire qu'il y a une tessiture de voix que j'aime plus que d'autres. Si on m'avait demandé qu'est-ce que tu aurais aimé avoir comme voix, toi ? J'aurais peut-être dit, j'aurais bien aimé être un beau mezzo. Mais je ne peux pas dire que j'ai plus de... Peut-être pour les rôles que les mezzo chantent. Ouais, parce que c'est beau. C'est très beau, les voix de mezzo. Mais je ne peux pas dire que autour de moi, je préfère plus... j'ai des affinités avec des timbres qui frappent mieux mon oreille que d'autres. Hein. Mais je ne peux pas dire que j'aime mieux une tessiture qu'une autre. Non. Très juste, et puis il y a des jours où peut-être, par moment, tu pourras plafonner. Donc il faut toujours que tu profites des moments où tu ne chantes pas et où la musique joue seule pour te réaccorder et repartir toujours avec l'oreille tendue vers la musique, pour ne pas réattaquer faux, parce que quand on chante, nous rentrons dans la musique. Dans une vie future, je crois que je redeviendrai chanteuse. Mais il y a toujours d'autres choses, il y a d'autres compositeurs. Je ne sais pas, moi, j'ai eu la chance de chanter dans les années 60, 70, où on faisait beaucoup de créations d'opéra. Et il peut y avoir un autre genre de musique. J'espère qu'il va y avoir un autre genre de musique, qu'on ne va pas rester sur la musique du 19e siècle, sinon on est mort. Il faut aller vers autre chose. Le mot de la fin, c'est que j'espère que les jeunes que je côtoie et qui sont pleins d'espoir verront les portes de tous les théâtres. Je ne dis pas du monde, je ne suis pas exigeante. Mais verront les portes de tous les théâtres de France se rouvrir pour eux. Et que nous n'ayons pas l'impression d'être des exclus parce que nous sommes français.
Non, non, je ne veux pas t'écouter plus longtemps.
Célèbre valse de Juliette dans l'acte 1 de l'opéra de Gounod, Roméo et Juliette, interprétée par André Esposito, concluait la mémoire retrouvée que Gaël Le Gallic lui avait consacrée en 1994 sur notre antenne.
Les trésors de France Musique.
Je vous invite à rester en compagnie d'André Esposito à l'écoute d'un large extrait de Thaïs, l'opéra de Massenet. Thaïs, un rôle qu'André Esposito a enregistré deux fois à la radio. C'est l'un de ces enregistrements que je vous propose de redécouvrir. Aux côtés d'André Esposito, Robert Massard dans le rôle d'Athanaël, avec l'orchestre et les chœurs de la radio lyrique que dirigeait Albert Wolff. Voici la fin du premier acte de Thaïs et le premier tableau de l'acte 2, enregistré en août 1959.
fait que la force de ses charmes ne triomphe pas de ma volonté.
Allons, parle à présent.
On dit que nulle femme ne t'égale, et c'est pourquoi j'ai voulu te connaître, et c'est pourquoi te voyant, j'ai compris combien il me serait glorieux de te vaincre.
Tes hommages sont beaux, ton orgueil les dépasse, présomptueux.
Tumulte effrayant s'élève en ma pensée. Seigneur, Seigneur, fais que son radieux visage soit comme voilé. Devant moi,
c'est visible et présent.
Pitié, Seigneur,
et du enchantement de l'onde.
Que la force de ses charmes ne triomphe pas de ma volonté.
Les blancheurs de la neige, Vénus descend et règne. Splendeur, volupté,
Athanaël, moine d'Antinoé, je viens du Saint-Désert et je maudis la chaîne et je maudis la mort qui te possède. Et me voici devant toi comme devant un tombeau. Et je te dis, Thaïs, lève-toi!
Ne t'en fais pas.
La méditation de Thaïs, extrait de l'opéra de Massenet, dont vous avez pu écouter un large extrait dans un enregistrement de 1959, avec André Esposito dans le rôle de Thaïs, Robert Massard dans celui d'Athanaël, avec l'orchestre et les chœurs de la radio lyrique dirigé par Albert Wolff. Le podcast des trésors de France Musique est à retrouver sur le site radiofrance.fr et via l'appli Radio France. Merci à Béatrice Trichet pour la réalisation ainsi qu'aux documentalistes de l'INA pour leur collaboration.
À réécouter sur francemusique.fr.